RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de David Elbuik et de Reynald Pedros, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui coach Courbis. Roland, bonjour.
Salut les amis.
Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
Salut Roland, salut Gilbert, bonjour à tous.
Salut. Aujourd'hui, on va faire une évaluation un peu différente. On va pas faire l'évaluation du match à Clermont, que déjà on s'en fout. Ouais. On va faire l'évaluation de la saison. Atelier a brûlé de la saison. Pas mal. Voilà.
Oui.
Et puis, comme toutes les semaines, un débat. Débat et quelques infos d'Edouard sur la suite. Comment l'OL prépare la saison prochaine? Peter Boss s'est longuement exprimé ce week-end au progrès. Mais bon. Il n'y a pas que ça. Bref, il faut qu'on en sache plus et c'est tout de suite dans le podcast After Lyon.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Roland, quel joueur cette année t'a plu sur l'ensemble de la saison? Tu vois, le gars, tu te dis malgré la saison lyonnaise ratée, parce que c'est une saison ratée pour Lyon, il y en a un qui a tenu son rang, qui a été constant.
Je vais en trouver deux.
Très bien.
Loukeba derrière qui me surprend dans une période compliquée. De son club, arriver à s'imposer à cet âge-là, de cette façon-là, sincèrement, grand coup de chapeau. Et Dembélé, qui quand même, malgré quelques matchs ratés, enfin que j'ai dit ratés parce qu'il était absent, se débrouille de faire une saison correcte.
Après, 22 buts après, au total, après 17 en 2022.
J'en mets un troisième au milieu, Cacré, avant sa blessure, qui était devenu et qui est maintenant devenu un des joueurs.
On va dire qu'il a pas fait une
important.
Saison complète, quoi. Voilà.
Voilà.
Edouard, ces trois noms-là, ils te conviennent?
Ah oui. J'aurais mis le dernier en premier, mais c'est, tu veux encore dire que je suis pas.
Mais il a pas fait une saison complète.
Voilà, bah, il y a eu ces quatre derniers matchs, ouais, où il a manqué à cause de son problème du ménisque au mois d'avril. Ouais. Pour le reste, voilà, indispensable. Hein, quand on arrive avant les matchs de Coupe d'Europe ou les matchs charnières au mois d'avril à se dire, à faire des sujets, comme on dit dans notre profession, l'indispensable Cacré, que faire sans lui, ça veut dire que il a pris une place au-delà donc des espérances. Et puis, en tout cas, c'est clairement l'homme de l'année d'une certaine manière et l'homme qui va faire le lien entre cette année et l'année prochaine, puisqu'il a prolongé et qu'on va redonner un petit peu d'ADN lyonnais et puis d'ADN centre de formation. Tu as parlé de Loukeba, Maxence Cacré, Castello Loukeba, Maxence Cacré, voilà, d'une manière générale aussi, c'est le retour à l'académie parce que mine de rien, sur les derniers matchs, tu avais quand même pas mal de joueurs qui étaient de l'académie. Hein, donc, alors à des âges différents, Anthony Lopez, Malogusto, Oussem Aouar, Castello Loukeba, Bradley Barcola ou Maxence Cacré. Mais voilà, on revient aussi à cet ADN que veut l'OL. Donc c'est aussi un pont entre cette année et l'année prochaine.
Bah, et moi, j'aimerais quand même comment juger la saison de Paqueta, alors. Parce que Paqueta, je vous rappelle quand même qu'avant Noël, on en avait plein la bouche. Hein.
Ouais. Oui, mais si on fait justement la moyenne de cette période, de la période d'après, eh bien, on va arriver à un Paqueta moyen.
Donc, tu dis qu'au final, saison moyenne.
Et disons, à l'image de Lyon, qui a eu quelques périodes, notamment l'Europa League de très bien dans la poule. Et donc, après, ben, Paqueta, perturbé peut-être par le départ de Guimarães, enfin, je ne sais pas trop, mais enfin, un Paqueta, allez, décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui.
Oui, puis Paqueta, il ne faut pas oublier non plus dans la période où il était euphorique, notamment dans ce podcast, messieurs, il a perdu par exemple un ballon important dans un match Lyon-Reims, qui avait donné le but d'Ekekité dans les dernières secondes, et la victoire des Rémois à Lyon. Voilà, donc il y avait aussi déjà un petit peu, dès le mois de décembre, un petit peu une pente descendante pour lui, qu'il n'a pas vraiment remonté en 2022.
Bon, il y en a un autre dont on va parler assez peu finalement, et moi je trouve qu'il a fait une bonne saison, c'est Anthony Lopez.
Ah bah oui.
Ah mais,
Là on parlait que des joueurs de champ, c'est sûr que si après on...
Ah mais il fait partie de l'équipe.
Oui, c'est hors catégorie, oui.
D'accord. Mais
il a été pas mal critiqué ces dernières années quand même, Lopez. Rappelez-vous l'histoire des sorties, parfois.
Il avait du mal à maîtriser ses nerfs aussi. Les périodes où il était critiqué, peut-être qu'il était critiquable aussi.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a eu quelques sorties, appelons ça hasardeuse. Alors que là, je l'ai trouvé assez calme, je l'ai trouvé, disons, comme un leader, un comportement justement d'un des capitaines de cette équipe-là, oui, ça, absolument.
Et là, c'est le gros travail de Rémy Vercoutre, hein, qui est revenu l'été dernier. Voilà, donc l'histoire est quand même belle. C'est Anthony Lopez qui, pendant la carrière de Rémy Vercoutre, lui pique la place à un moment donné quand celui-ci se blesse. Et finalement, bah, entre guillemets, ils n'en tiennent pas rigueur. Et l'un va faire progresser l'autre quelques années plus tard. Et franchement, tout ce calme, tout le travail que fait Rémy Vercoutre, et je vous parle de calme, hein, de la part de Rémy Vercoutre, donc quand on le connaissait un petit peu sur le banc, mais avec le temps, il a une belle transmission. Donc la très bonne année d'Anthony Lopez est aussi le très bon travail du coach.
Bon, voilà. Non, mais c'est marrant parce que Lopez, quand on cite les gardiens, on a fait le débat sur Donnarumma.
C'est un scandale qu'il n'a pas
Qui aurait jamais dû être meilleur gardien de la Ligue 1. Mais enfin, on parle beaucoup de Benitez, on parle de Cels, on en cite plein. Et à chaque fois, Lopez, je sais pas, il vient un peu en queue de.
Mais je pense que cette période aussi que tu as soulevée, qui était une période avec quand même quelques sorties allées à. Hasardeuse, je pense qu'elles lui ont fait beaucoup de mal à sa réputation. Et là, intelligemment, je le trouve quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus rassurant. Et là, quand tu vois Lyon et que tu penses à l'équipe de Lyon, ben, tu penses aux qualités de son gardien. Ça n'a pas toujours été ça, la première pensée.
Bon, voilà pour les tauliers de l'année. On peut le dire comme ça, avant qu'on en ait oublié un.
Non, je pense que sur l'année, non, je pense que là, on a fait tout.
Bon, bah, on va pouvoir passer au boulet alors.
C'était un guignol.
Voilà. Quelques boulets cette année ?
Oui, bah, moi, je vais mettre en porte-étendard Jérôme Boateng. Mais plus généralement, au-delà de l'homme, c'est un petit peu le côté flop de l'année, c'est au niveau des mercato en mode panic buy, c'est-à-dire qu'on va chercher des joueurs au dernier moment, dernier jour, parce que, alors je vais peut-être être trop généraliste, mais peut-être avons-nous pas assez travaillé le mercato en amont du côté de l'OL, par exemple, pour exagérer un petit peu. On découvre le 15 août qu'il faut un arrière-gauche, et du coup on va chercher par exemple Emerson, il a terminé sur le banc, doublé par Enrique. Jérôme Boateng, on n'en parle pas parce qu'on lui a taillé pas mal de bavettes ici même, mais d'une certaine manière, quand on voit Shaqiri, quand on voit Tanguy Ndombele, voilà, c'est tous des joueurs qu'on est allé chercher un petit peu au dernier moment. Tanguy Ndombele, c'était un pari. Puis au-delà de ce panic buy, donc acheté au dernier moment, donc ça veut dire peut-être que le mercato n'a pas forcément été bien préparé en amont. Il faut aussi changer de braquet pour l'année prochaine, et pour les autres fois, il faut arrêter d'aller chercher des joueurs étiquetés avec leur club, parce qu'on a trop peut-être à un moment donné, Boateng, il vient du Bayern.
Ouais, complètement.
Emerson Chelsea, Tanguy Ndombele Tottenham, Shaqiri Liverpool, et avec ça on croyait peut-être dans le Bordelais qu'on va acheter de la qualité, et puis surtout peut-être auprès du public, auprès des supporters, regardez, on a pris quelqu'un à Liverpool, on est un grand club. Sauf que là les supporters ne sont plus dupes de ce genre de choses, et en plus les joueurs n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter.
Roland, y a, à part Boateng, il y en a un autre qui t'a déçu cette année ?
C'est-à-dire que Boateng et Shaqiri, ça évidemment, je ne vais pas être original, je crois que c'est ce qui a déçu tous les Lyonnais, tous les supporters et les passionnés pour ce club-là. Mais surtout de rappeler que Shaqiri arrivait pour remplacer le joueur vedette, la star de Lyon, qui était Memphis Depay. Ouais. Quand tu prends Shaqiri, déjà c'est une erreur. Mais quand tu remplaces Memphis Depay par Shaqiri, c'est une double erreur. Bon, et des erreurs, on en fait tous, mais celle-là, elle est énorme.
Oui, puis quand tu le prends en mode ailier gauche, ou en tout cas attaquant de couloir, alors qu'il est, et donc il est utilisé comme cela, alors qu'à longueur de conférence de presse, on dit qu'il est bon dans un petit périmètre derrière le 9, et que tu as déjà Cherki, tu as déjà Paqueta, tu as déjà Aouar, voire RN Adélaïde, mais il n'était pas prêt en début de saison. Voilà, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, et j'espère, du côté de l'OL, on a travaillé sur le mercato prochainement, et de façon plus approfondie et plus en amont.
Certains supporters.
Pour Boateng, évidemment, que je suis d'accord.
Certains supporters auraient mis Dubois, Edouard, dans cette catégorie. Ah, je savais que t'allais souffler.
Oui, non, c'est sûr, oui. C'est sûr. Alors après, il a été doublé par Mal Augusto, donc voilà. Alors après, est-ce qu'il a eu le mental pour poursuivre un petit peu tout ce qui s'est passé ? Vous savez, aujourd'hui, on a eu en avant-première l'OL TV, l'OL Play, pour être plus précis, a fait une petite série sur le titre de 2001 de 2002, en commençant par la Coupe de la Ligue 2001, et on discutait avec Robert Pierre Duverne qui était là avec Sonny Anderson, et je leur disais, mais cette année-là, elle est incroyable, hein, cette année 2002, parce qu'il y a des éliminations à tour de bras dans toutes les coupes, le titre, finalement, ça glorifie un peu tout, et je leur dis, mais cette année-là, s'il y a les réseaux sociaux, s'il y a tous les débats, etc., est-ce que vous faites l'année que vous avez fait ? Eh ben non, finalement, Sonny Anderson et autres disent, non, non, mais non, non, jamais, parce que on aurait pu peut-être être troublé par tout cet environnement, donc j'en viens à ma démonstration par Léo Dubois, est-ce qu'il l'a supporté aussi tout ce bashing qu'il y a eu autour de lui, voilà. Alors après, à un moment donné, forcément, il a lâché. Donc après, c'est toujours le coup de poule ou de l'œuf, hein. Qui a commencé, est-ce que c'est lui qui a été pas bon et donc les supporters l'ont vu, et ou est-ce que c'est les supporters parce qu'ils l'ont sifflé parce qu'il y avait Malo Gusto, quelqu'un qui était de l'académie, qui était à leurs yeux meilleur. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a pas, il a déçu, et bon, bah voilà, ça fait partie des joueurs qui vont normalement partir avec une piste en Italie, mais voilà, si on veut faire le grand ménage à Lyon, le grand brassage, comme on en a parlé, il faut aussi, Roland Gilbert, trouver un acheteur.
Alors, oui.
En ce qui concerne la gestion aujourd'hui, je le dis, je le répète, et là, je vais finir par et insister là-dessus. Il y a des postes dans tous les effectifs qui sont doublés. Ce qui est tout à fait logique, il y en a même qui peuvent être triplés, mais contentons-nous de doubler. Et ce poste-là, d'arrière latéral d'aujourd'hui, que ce soit dans une organisation à 4 défenseurs ou une organisation à 3 arrières centraux, ce qui est donc des pistons, puisque c'est les nouveaux noms des arrières latéraux de l'époque, il est indispensable d'en avoir deux côté droit et deux côté gauche, ce qui est le cas à Lyon. Et ce que je n'ai jamais compris, ouais, et que je ne comprendrai jamais, c'est qu'on veut à tout prix que ce soit l'un ou l'autre. C'est pas pour moi ça la solution. La solution,
ce qu'on
c'est
veut,
que tu
c'est
te sers
de certaines parties des tweetos et de quelques supporters. Hein. C'est pas forcément voilà. Faut
voilà. Donc, mais du côté de Lyon, c'est devenu, si tu veux, une habitude de vouloir l'un ou l'autre. Alors que j'insiste, et j'ai la prétention quand même de connaître un petit peu comment gérer un effectif dans certains secteurs, à certains postes, c'est l'un et l'autre. Et la saison prochaine, sans Dubois, je vais regarder avec impatience quelle est la solution de remplacement de...
Quoi ?
Du jeune Dubois ?
Non.
Malo Gusto. Malo Gusto va tenir la saison entière, par exemple.
Mais je te le dis d'ores et déjà. C'est impossible.
Ben non, c'est impossible.
C'est impossible. Donc, je veux voir avec qui Malo Gusto va se partager le boulot la saison prochaine avec le départ de Dubois. Et ils sont suffisamment compétents au niveau du recrutement pour que ce que je suis en train de dire là n'échappe pas à Lyon.
Alors, débattons maintenant des déclarations de Peter Bosz ce week-end.
Je veux juste insister sur quelque chose avant de parler de Peter Bosz, de recrutement, etc., etc. Les heures qui passent sont très importantes au niveau capitalistique à l'OL. Hein.
Ah.
Il faut bien avoir en tête que tout va passer par le tour de table qui est en train de se jouer. Le Jean-Michel Aulas a 28% et on sait depuis le 9 mars dernier qu'il y a 40% de ses actions qui sont à vendre. Hein. Les 20%, on arrondit, hein. 20% du groupe Pathé et 20% d'IDG Capital qui est un groupe qui est rentré en 2016. Les deux ont fait acte de sortie, donc il faut des acheteurs. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des actions qui sont en vente. Donc vous avez compris, 40 par rapport à 28, ce que ça peut faire. Donc si quelqu'un rachète ses actions, il peut être majoritaire.
Et
donc
si...
il y a des dossiers actuellement qui sont en cours pour tout racheter et la gouvernance, elle sera à qui ?
Excusez-moi, mais est-ce que ça ne va pas tout simplement être simplifié par le fait que bizarrement, Jean-Michel Aulas achète 24% de ces actions-là ?
Je sais pas, ça peut être une solution, hein, mais j'insiste bien sur le côté que pour l'instant, et ça intéresse beaucoup de monde à l'OL parce que on est dans les starting blocks par rapport à ça, parce que ça, alors je ne dis pas que Jean-Michel Aulas va perdre la main, mais faut pas, mais je dis pas qu'il va forcément la garder. Je sais pas si vous voulez voir un petit peu, parce que ça, il y a 40% des actions qui sont sur le marché qui vont être rachetées par quelqu'un. Donc,
moi, je...
y a, il y a des dossiers. Alors, lui, il peut en racheter. Je sais qu'il y a des dossiers qui passent par la banque d'affaires Rennes qui sont téléguidés par Pathé. Donc, ça, c'est des dossiers qui sont là. Il y a un dossier aussi qui est téléguidé par Jean-Michel Aulas. Et on va dire qu'il est Jean-Michel Aulas compatible, c'est-à-dire qu'il garderait la gouvernance. Et tout ça, c'est des négociations actuellement qui sont un petit peu difficiles. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête à l'instant T, cet aspect capitalistique de l'OL, parce que les heures sont importantes à ce niveau-là. Et on planche plus au sommet de l'OL par AFI Finance, Roland, que sur savoir qui est Peter Boss
oui,
ou
d'accord.
Pas, s'il y aura un 31e entraîneur ou pas.
Chaque chose en son temps. Et je maintiens et je pronostique que Jean-Michel Aulas aura, bizarrement, après quelques rachats du côté de Pathé et tout, ben 51 ou 52, ce qui pour moi sera une bonne chose, qu'on soit d'accord ou pas, avec les qualités et les défauts qu'on a tous, et Jean-Michel aussi, à les siens, mais je pense, et je ne m'imagine pas un seul instant, sauf si c'est lui qui décide, un seul instant, Jean-Michel Aulas minoritaire, je ne me l'imagine pas.
Voilà, maintenant,
et
sur le plan sportif.
Pas avant 2023, parce qu'il y a cette fameuse salle là, inaugurée, et je ne vous vois pas partir, la fameuse salle de l'ASVEL, partir avant d'inaugurer ça.
On est d'accord que Peter Boss sera l'entraîneur, il n'y a pas y aura de coup de Trafalgar et tout.
Bah après, il l'a dit, hein, ça dépend aussi du...
Oui, s'il y a un nouveau patron.
Alors, c'est à la fois de la réelle politique économique, parce que voilà, s'il y a quelqu'un de nouveau et qui dit, ben voilà, tiens, moi je veux venir avec coach Courbis, ben voilà. Et, et puis c'est aussi une manière aussi de gagner du temps. Bien évidemment, quand il nous le dit, on était le 11 mai dernier. Mais normalement, Peter Boss devrait être là.
Est-ce que tu t'attends à une sorte de grand chamboulement sportif ou finalement pas tant que ça?
Ah oui, grand chamboulement, oui. Au niveau joueur, on l'a déjà un petit peu dit, mais Jason Denayer, fin de contrat, Emerson Tanguay-Ndombele, retour de prêt, donc pas conservé. Léo Dubois, encore un an de contrat, mais ce sera direction l'Italie très vraisemblablement. Oussem Aouar, sifflé par le public, ben lui, les pistes actuellement, c'est le Betis Séville. Jérôme Boateng, on va voir un petit peu, mais il y a encore un an de contrat. Thiago Mendes, qui s'est finalement rendu indispensable, que va-t-on en faire? Il y a des chances qu'il parte. Tino Kadewere n'est plus dans les plans de Peter Boss depuis un petit moment. De Lucas Paqueta qui lui peut ramener de l'argent sur un transfert, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de coop l'année prochaine. Outre l'aspect capitalistique, il n'y a pas d'Europe, donc même si il y a le fonds CVC là qui va amener un petit peu d'argent, l'équivalent d'une campagne en Europa League, comme l'a dit le président Aulas, voilà, il va falloir trouver de l'argent. Et puis après, quid de de Moussa Dembélé, qui est en fin de contrat l'année prochaine, donc lui il veut visiblement pas prolonger. Que va-t-il se passer par rapport à lui? Parce qu'un neuf qui marque 22 buts. Voilà. Après, la question pour Karl Toko Ekambi et puis Matteo Stété, qui lui voudrait rester à Lyon. Mais voilà, sa situation est un peu complexe avec tout ce qui se passe malheureusement en Ukraine.
Merci Edouard.
Donc il va y avoir un grand brassage. Grand
merci
brassage.
Edouard, tout ça à suivre dans l'after, hein, bien sûr, tous les soirs pendant l'intersaison. Merci Edouard. Merci
Roger. Salut Doudou.
Et à très vite.
Ciao, ciao.
Le podcast After Lyon. Bye bye.
Salut.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.